Bienvenue au balado Soirée Peinture. Le balado Soirée Peinture, c'est un podcast sur une gang de chums qui jase de hobby. Eh oui, c'est simple de même. On va jaser de peinture, évidemment, c'est dans le titre, de conversion, de campagne, les nouvelles sorties, etc. On va aussi avoir des invités qui vont joindre à nous une fois de temps en temps, mais pas nécessairement à chaque épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que vous allez trouver, c'est un tour de table où est-ce qu'on jase de nos projets actuels. On va aussi avoir un thème, notre thème d'aujourd'hui étant qu'est-ce qui fait qu'un bon événement fonctionne et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos événements que nous on fait et dans peut-être les événements que vous fréquentez. On y réfléchit un peu plus profondément. Puis on va aussi avoir notre section coup de cœur où est-ce qu'on vous partage des petites choses qu'on a eues dans l'actualité ou qui nous fait triper un peu dernièrement, mais pas nécessairement les choses sur lesquelles on travaille actuellement. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne soirée peinture.
Je pourrais peut-être commencer par jaser de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peint, sur quoi est-ce qu'on travaille, right?
Ouais!
Absolument!
Je pense qu'on pourrait commencer par David.
Aujourd'hui, je travaille sur un grand immonde, aussi connu sous le nom de Great Unclean One en anglais. Je fais ça dans le cadre d'une campagne qu'on fait à partir des romans Plague War. Donc, on a grandi nos armées puis nos listes au fur et à mesure de la campagne. Et là, j'étais rendu à ajouter mon deuxième grand immonde. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un grand immonde que j'ai pas monté moi-même et qui avait exactement la même forme que le grand immonde que j'avais monté par moi-même en premier. Donc, j'ai dû faire preuve d'ingéniosité pour qu'il se ressemble, mais qu'il se ressemble pas tellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des Nurglings différents. Pour la partie de montage, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai décapé un peu parce qu'il avait été peinturé à l'avance. Il y avait un schéma de peinture très intéressant, mais que je ne voulais pas reproduire de mon côté. Donc, j'ai décapé un peu mon Nurgling, mon premier Nurgling. Premier Great Unclean. J'ai fait le schéma vert Plague Bearer Flesh au contraste. Alors là, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je vais faire Gilliman Flesh. Et jusqu'à maintenant, ça donne très bien. Je suis bien content. Je mettrai une photo. Donc, j'ai fait tout au contraste Gilliman Flesh. J'ai fait je me suis trompé. J'ai fait un dry brush Bugman's Glow. Alors que j'aurais dû faire, il y en a un plus pâle que ça.
Qui est pas pissé. Cadian
Flesh Tone. Voilà. Donc, ouais. Ça a donné comme un drôle de dry brush vraiment foncé. Mais en revenant faire un dry brush au Kislev Flesh, ça a donné une belle profondeur à ma peau.
Ben ouais, ça blend plus ensemble.
Ouais, fait que c'est super intéressant. Là, j'ai commencé à mettre d'autres couleurs. Donc, j'ai fait les plaies rouges, les plaies jaunes au Nasdrag Yellow. Je suis venu autour de mes plaies avec du Magos Purple. Fait que j'ai beaucoup de contraste dessus avec du dry brush. Je trouve ça super intéressant. Et parties. Oui.
Est-ce qu'on avait un disclaimer auparavant pour dire aux gens qu'il fallait pas qu'ils écoutent notre podcast pendant qu'ils mangent? Je veux juste être certain.
Ça va être nécessaire, je pense. Ouais,
tant que tu vas faire dire le mot plaie à toutes les phrases, je pense qu'on va avoir besoin de ça. Mais c'est correct, continue. J'avais dit ça au cul.
Pour l'inspiration, j'ai ouvert Google et j'ai tapé maladie de peau.
Oh.
Je l'ai mis sur image pour avoir des idées de couleurs et de quoi ça ressemble.
Non, mais on peut rester dans le local. Tu as juste à taper Docteur Bouton, tu vas voir.
Oh. OK, s'il y a des jeunes, allez pas checker ça. OK? Je sais pas ce que c'est, mais si c'est Phil qui l'a dit, allez-y pas. OK, attendez les parents de quelqu'un.
Ah, mais moi, tu sais, c'est pour ça que j'ai aucun intérêt à peindre du Nurgle. Genre, j'ai vu Simon qu'on avait au dernier épisode, là.
Ouais.
Et puis il y en a d'autres qui font des trucs. C'est excellent au niveau peinture, mais ça en devient dégueulasse pour vrai, là. Ah, j'ai tellement. Bravo, mais moi, j'ai tellement aucun intérêt, là.
Ah. Ben, c'est un compliment. Quand un modèle de Nurgle, ouais, tu le regardes, puis il te donne mal au cœur, puis tu te demandes si tu n'as pas envie d'arrêter de manger durant 2 semaines, c'est un compliment.
Ouais.
Oui, donc David, Plague War, Great Unclean, des plaies, tu le quittes.
Exact. C'est vraiment un plaisir de faire ça. Le fait de le faire pour une campagne, ça ajoute à la motivation. Puis étant donné que c'est du Nurgle, je me laisse un peu plus aller, fait que je peux faire des happy accidents, comme ils disent. Là. Mon Bugman du Ghost, c'est un happy accident, mais tu sais. Vu que c'est Nurgle, c'est correct que ça a la salle, c'est correct que ça a l'air différent. Fait que ça aide à tester des choses et à découvrir en même temps.
Ben oui. Phil? Toi, tu travailles sur quoi, là?
Ouais, fait que j'ai posté des photos. Je travaillais un peu là-dessus la semaine passée. Je continue à travailler là-dessus. Dans la campagne de plaidoir, je joue des Solar Auxilia. Donc, c'est ça. Je continue à les peinturer. J'ai fait les stades d'huile. J'étais en train de faire les détails. Donc, je travaille sur une squad de 20 Last Rifle. Donc, de la troupe là, équivalent pour l'Astra Militarum. Puis en même temps, il y a deux sneaky Jane Steeler Colt dedans qui ont un peu le même look que j'utilise comme test model pour les futurs Jane Steeler Colt que je voudrais faire, là, que j'ai dans ma pile de possibilités. Donc, une pierre, deux coups. Sinon, ouais, vas-y, tu avais une question en tant que fellow collaborateur de l'Empire.
Ben, tu sais, moi, tu le sais, je suis clairement un adorateur de l'Empereur. Hein? Il n'y a pas de limite au nombre. Ouais, il n'y a comme pas de limite à ce que l'empereur peut te donner quand il a quatre bras. Fait que je tiens à te welcome, à t'accueillir dans le culte de l'empereur, le vrai. Tu peux continuer, c'est correct.
Oh, ouais, mais je vais gracieusement refuser ton embrace à quatre bras. Tu sais. Je vais peinturer mes lance-flammes, ça va servir contre tes multiples bras de tes faux anges qui me répugnent autant que Nurgle.
Tu peux pas dire ça. Tu parles contre ton cœur.
Non. À part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que j'ai juste à la table? J'étais en train de commencer un vampire de Cursed City. Que je m'amusais avec la fourrure de Radukor, qui est comme le personnage principal là, méchant de la boîte.
Ouais.
J'avais travaillé un peu sur sa base parce que je trouve qu'il était un peu petit par rapport aux autres figurines. Fait que j'y ai donné un peu plus là, de prestance. Puis je m'amusais là, pour faire la cape de loup puis certains autres de ses détails en peinture à l'huile en n'utilisant pas d'acrylique.
Mmh.
Parce que pourquoi pas se compliquer la vie? C'est ça qu'il va avoir sur mon épitaphe.
Oui, exactement. Pourquoi finir un modèle quand tu peux juste changer de technique complètement dans peinture?
Hein? Pourquoi? On finit un vampire, on va faire l'autre avec d'autres techniques. Ça fait partie du plaisir. Puis sinon, pour faire un peu de Age of Sigmar, j'ai commencé à travailler là, sur les Cities of Sigmar. Fait que je suis en train de convertir puis assembler là, des Free Guild Guard. Donc les gars de base là, avec bouclier épée humain pour aller là, dans nos parties narratives qu'on veut probablement jouer, là, certains d'entre nous. Donc ouais, c'est ça. Je travaille là-dessus.
C'est clair qu'il va falloir se prendre un bout d'épisode à un moment donné pour pouvoir jaser de Griffon, Rekstat, puis tout ce qu'on a prévu faire là, dans Age of Sigmar. T'as fait des belles cartes dernièrement, puis tout. Je pense que ça va valoir la peine d'en parler dans des prochains épisodes. Je sais que c'est pas le thème d'aujourd'hui, là, mais honnêtement, c'est vraiment cool.
Ouais, moi, je suis curieux. Tu dis que tu leur fais des conversions. Qu'est-ce que... C'est-tu en lien avec le thème de ta city, ou...
Ouais, ben je leur donne un look un peu plus grimdark. On se rappelle, c'est les vieux kits de l'Empire. Fait que ils étaient un peu plus à plumes et linge victorien, renaissance. Je donne ça à Dave d'habitude dans un Ziploc avec les bases carrées. Il aime bien ça. Fait que c'est surtout, là, j'ai imprimé en 3D des casques. Fait que beaucoup de salets, de t'sais, toutes des casques, dans le fond, avec des visières ou... C'est pas de chapeau de plumes puis de tricorne.
Hérétique.
Ok, t'es ramène un peu plus médiéval que Renaissance.
Ouais, c'est ça.
Oh, cool.
Max, ta quête-là, j'en doute d'autres, qu'est-ce que tu fais dernièrement? Là?
Ouais, ben, moi, je suis sur un warband de Underworld, les Godsworn Hunt, ouais. Qui sont un des warbands quand même assez cool. Mais je vais en parler parce que j'adore faire peinturer les Warband de Underworld parce que je peinture moins que vous autres, j'ai moins d'intérêt, moins d'habitude. Mais un Warband, c'est vraiment une occasion de faire des tests, d'avoir un tout petit projet qui se fait rapidement. C'est comme, mettons, de 3 à 9 figurines, là, si je me souviens bien, de tous, de toutes les factions différentes. De Age of Sigmar. Fait que, tu sais, ça m'a permis d'essayer des ogres, des... Il y a trois gars de Nurgle. J'aurais jamais peint du Nurgle s'il n'y avait pas ce Warband-là. Puis, veux pas, ça permet aussi de travailler sur des techniques différentes. Tu sais, je l'ai dit, là, moi, j'utilise du contraste, du métallique, puis des textures, là, c'est tout. Mais là, je suis en train de regarder pour l'utilisation des contrastes par-dessus des couleurs métalliques ou différents petits trucs, puis l'essayer à 3 ou 4 figurines, mettons que c'est pas mal plus à mon niveau que de me partir une armée avec une technique, là.
Ben, puis, tu sais, bon, en plus que ça vient dans le jeu, je veux dire, que tu peux jouer avec dans The World, ça reste que tu as des règles pour pouvoir jouer avec dans Age of Sigmar. Ça reste que tu peux te faire un mini-projet, tester des couleurs de peinture, puis si t'es quelqu'un qui a tellement aimé ça que tu as le goût de te partir une armée, ben, tu as déjà ta recette. Tu as déjà toutes tes affaires, tu es prêt à t'acheter un stock collecting puis partir à faire quelque chose de plus gros, tu sais.
Ouais, puis les modèles de Warcry sont quand même, de Underworld sont quand même, c'est Warcry qui le coupera, de Underworld, Shadespire. Ouais, c'est ça. C'est un beau lapsus parce que dans le fond, ils peuvent servir à plein d'autres choses, mais c'est des modèles qui sont assez différents d'habitude de la gamme qu'ils représentent. Fait que c'est quand même tous des beaux petits projets de peinture.
Ben oui. Donc, on se rappelle que les Ashiok Bone Reaper ont toujours pas d'archer dans leur armée, sauf dans leur band, dans leur warband d'Underworld.
Comme les Slave to Darkness.
Comme les Slaves to Darkness. Fait que, ouais, vraiment, là, genre, si quelqu'un a le goût de se partir un petit projet Age of Sigmar, je pense que vous pouvez suivre la route de Max. Underworld, c'est genre the way to go. Ça vaut vraiment la peine.
Yep. Non, c'est vraiment le fun. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu fais?
Moi, les gens vont être déçus, mais on est encore dans le mois de mars. Fait que, March for McCrag. Fait que je fais du Ultramarine, March for McCrag, du Ultramarine pour Plague War, puis du Ultramarine pour le Russe Hérésie. Full Ultramarine. J'ai eu une grosse semaine la semaine passée à job qui m'a vraiment comme ralenti. Fait que ce que j'avais prévu faire dans ma semaine, mettons, entre nos deux podcasts, là, j'avais prévu peindre pas mal plus que ce que j'ai fait. Ce que j'ai réussi à faire, c'est 5 Blaster, puis 3 Outriders. Primaris, évidemment. Fait que ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est plus lent que ce que je fais habituellement. Habituellement, j'aurais probablement rajouté au moins un héros, puis peut-être une autre unit par-dessus ça, si je compare à l'année passée, mettons. Et je pense que j'ai comme pogné un petit beat, là, dernièrement. J'ai comme recommencé à pogner un petit quelque chose. À job, ça s'est un petit peu calmé. Fait que j'ai un petit peu plus d'énergie mentale pour pouvoir peindre, puis plus de temps. Fait que ça aide. Fait que là, je suis en train de peindre 3 agresseurs avec des Flamestorm Gauntlet, puis 3 Eradicators avec simple Melta. Je suis en train de faire ça. Là, pendant qu'on jase, je suis en train de mettre du Iron Warrior Base Coat sur des câbles. Ouais, yep. Je sais que je voulais peut-être essayer de pas peindre pendant qu'on jase sur le podcast, mais j'étais capable.
Là, les gens qui te connaissent savent que t'es un gars de raccourci. As-tu développé un nouveau raccourci récemment pour une couleur ou quelque chose que tu faisais?
Oui, on va y aller avec le wet dry brush qu'on appelle dans le vocabulaire. Au lieu d'y aller avec les layering, mettons, comme que je faisais l'année passée pour pouvoir les faire ressortir le macrage bleu sur mes modèles. Dans le fond, recette rapide, là, ce que je fais, c'est un base coat de macrage bleu, un shade de Drucci violet, puis habituellement, je viendrais faire un layering de macrage bleu. Puis après ça, un lining de Adolf Guard Blue puis de Calgar Blue. Là, je suis allé pour un wet dry brush puis un 2 dry brush par la suite pour essayer de les faire ressortir un petit peu plus. Puis honnêtement, je trouve que ça sort quand même bien. Là, je les ai mis à côté des modèles que j'ai fait l'année passée puis les modèles que j'ai fait cette année. C'est assez similaire pour que quand ils vont être sur la table, ça va bien paraître. Puis je pense que je maîtrise plutôt bien mon dry brush pour pas avoir un look trop granuleux, là. Je sais que c'est ce que les gens ont toujours peur que ça donne quand ils font du dry brush. Avec le wet dry brush, avec un petit peu d'humidité, là, ça permet de pouvoir enlever cette espèce d'effet granulaire-là.
Mon expérience, c'est que ça beurre un petit peu plus. Fait qu'il faut que tu fasses attention, mais différemment.
Ouais, exact. Mais tu sais, ça sort popé. Puis il y a certaines armures sur qui ça passe plus que d'autres. Là. Je vais donner un exemple rapide. Là. Si je faisais des Blade Guard Veteran, par exemple, c'est des modèles qui ont plein de cloth, qui ont plein de. Des écus ses côtés, du cuir, de l'armure, il y a plein d'affaires mélangées. Ça vaut pas vraiment la peine, je trouve. Mais sur des Gravis Armor, ça vaut clairement la peine parce qu'il y a plein de reliefs. Fait que ça paraît bien quasiment tout de suite. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça paraît vraiment mieux là-dessus. Fait que full Ultramarine, fait que full de bleu, full de gold,
Puis je continue Plague War moi aussi. Fait que je continue mes projets dans Plague War pour essayer d'accompagner Phil. Fait que pendant que ces gars des Last Guns vont se faire tirer, puis que lui, il va avoir la foi de l'Empereur, ben ça va être moi l'âme de l'Empereur pour pouvoir finir les Death Guard. Et peut-être un grand immonde aussi, un grand coup de Flamestorm Gauntlet in the face.
L'Empereur protège.
L'Empereur protège. Surtout avec 4 bras.
On va se parler après.
Bon, ben on peut peut-être, passer au sujet du jour. Hein? On a un beau thème aujourd'hui qui va peut-être nous prendre un petit peu plus de temps à jaser, puisque je pense qu'on en a beaucoup à dire. Fait que ça vaudrait la peine de commencer. David, on avait fait au dernier épisode que c'était toi qui avais commencé la parole là-dessus, parce que c'est clairement des sujets qui te tiennent à cœur. J'ai comme envie de te passer à Puck encore.
Merci, Kevin. Dans le fond, aujourd'hui, notre thème, c'est qu'est-ce qui fait un bon événement de jeu de guerre, de wargame, selon vous? Puis en y pensant aujourd'hui, je me disais, on devrait peut-être commencer par pourquoi on fait des événements. Qu'est-ce qui fait que ça nous donne le goût de le faire? Puis moi, je me disais, tu sais, mettons, Kevin, on se dit, samedi soir, on se rencontre, on se fait une game de 40 000. Ben, c'est pas la même chose que de se dire, OK, dans 3 mois, on se fait un apocalypse. Où est-ce qu'on fait ça? OK, l'apocalypse, on fait ça dans Vigilus. Puis à la gang, on a comme défini un nouveau spot qui s'appelle Falsehood. OK, fait qu'on va faire notre apocalypse là-dessus. Puis c'est Abaddon qui arrive, qui débarque, puis qui gagne. Fait qu'on se fait un apocalypse là-dessus. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on se donne un objectif dans plusieurs mois. On monte notre stock. On peint. On a quelque chose en vue. Puis le moment aussi est le fun parce que c'est un moment, comme disait Simon, où notre communauté, on se rejoint. Le groupe d'amis, on se rejoint. Puis on a une journée où on va faire du... du jeu de guerre ensemble, puis on a du plaisir. Je sais pas, vous, comment vous voyez ça?
Ouais, ben c'est ça, pour continuer un peu sur ce que tu disais, moi aussi, un événement, c'est plus que juste se présenter puis se déplacer. C'est ça. On peut le faire entre nous, on peut le faire avec d'autres personnes, mais dans le fond, c'est planifier quelque chose, là, que ça soit un projet hobby, que ça soit pour un objectif de peinture ou un scénario que ça nous tente de jouer. Pour moi, c'est quelque chose qu'on prépare à l'avance et non qui est juste ce qu'on pourrait dire un pick-up game là, ou du match play. Là.
Vas-y.
Ouais. Ben, en fait, je pense qu'il y a vraiment un concept de qualité over la quantité. T'sais, on joue moins de parties, on n'a pas tant de temps que ça. Fait que quand on réussit à avoir un après-midi, un moment dans notre horaire, surtout quand on fait des parties à plusieurs, que ça fonctionne pour tout le monde, ben, on veut pas que ça soit juste OK, qu'est-ce qu'on fait, on arrive, combien de points, bing, bang, boom. T'sais, on veut qu'il y ait une signification et que ça soit préparé d'avance. Pour moi, c'est vraiment une façon de s'assurer de la qualité des parties, de vraiment faire un thème, un événement.
Ben, j'aborde un peu, tu sais, un petit peu dans tous ces sens-là, moi aussi, dans le sens où. Un peu comme Phil, pour moi, l'événement, c'est un deadline. C'est ça, c'est l'objectif à atteindre. Tout le reste, ça m'importe vraiment moins. C'est vraiment comme si on dit le 10 juin, il y a ça qui se passe, puis que ça me donne 2 mois, ben ça veut dire que j'ai 2 mois pour peindre. J'ai 2 mois pour fouiller dans ma pile, trouver mon inspiration, lire des livres, écouter des podcasts, wink wink, écouter des audiobooks, whatever, faire des soirées peinture en nous autres, peu importe. L'objectif, c'est d'atteindre le 10 juin avec tout mon stock peint. Même si à la limite, l'événement ne me demande pas d'arriver full paint, là, je m'en fous. Pour moi, c'est ça l'objectif. C'est de me rendre à cette date-là et d'avoir terminé des projets. Fait que, tout le reste autour, à la journée même, là, ma journée pourrait être plate, que pour moi, c'est pas grave. Je pourrais juste mettre mon armée quelque part sur une table, faire qu'elle est belle, les gens prennent des photos avec, moi je prends des photos avec, whatever, je me fais laver à chacune des games que j'ai joué, je m'entorche. C'est vraiment pas important, parce que j'ai atteint mon objectif qui était le deadline.
Fait que le voyage au lieu de la destination.
Ouais, ben non, c'est la destination. C'est le deadline, la destination. Je me rends pas au deadline, tout ce que j'ai fait avant, ça vaut pas la peine.
OK.
C'est peut-être un peu weird, là. Mais pour moi, si je me rends pas, mettons, je prends encore le 10 juin, là, si le 10 juin, j'ai 2 mois pour pouvoir faire tout, j'arrive là puis j'ai pas atteint, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu.
Il se passe ça, quoi, le 10 juin?
Ben, je vous en ai pas encore parlé, là, on va se garder ça pour un autre podcast. ouais, vas-y.
Là, on a bien comme fait le tour de pourquoi on aime ça, puis je pense que c'est ça l'intérêt d'abord, c'est qu'on a du plaisir puis on fait ça pour une bonne raison. Maintenant, entre nous, on a eu l'expérience de faire ça dans notre, comme disait Simon l'autre jour, notre petite communauté, notre espèce de pseudo-club. Kevin, toi, tu as eu la chance d'en organiser dans des contextes d'emploi.
Ouais.
Donc, à partir de nos expériences communes, qu'est-ce qui ferait, selon nous, un bon événement? C'est quoi qui est essentiel? Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché? Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché?
Selon moi, c'est quoi l'objectif de l'événement? Si je parle avec un organisateur d'événement puis il est prêt de pouvoir me dire c'est quoi son objectif, puis c'est pas clair en quelques phrases, là, pour moi, on passe déjà à côté de quelque chose. Parce que les gens qui vont venir s'inscrire, il faut qu'ils savent à quoi s'attendre. Puis plus que les gens s'attendent à la même chose, moins ils vont avoir de déceptions. Puis plus que les gens que tu vas réunir, ça va être des gens qui vont avoir des philosophies similaires parce qu'ils vont tous s'attendre à la même chose. Ils viennent tous pour la même raison. Mm-hmm. Bon, vous êtes déjà tous allés à Adepticon, fait que vous avez déjà plus d'expérience que moi là-dedans. Là. Moi, quand que je renais, mettons, quelque chose dans Games Workshop, puis que je renais un événement, puis que je disais aux gens, OK, fais un start collecting, puis à la fin, on joue tout ensemble, puis on se fait une journée de gaming. Je prépare un scénario que tout le monde joue à travers la journée. C'était clair pour tout le monde que l'objectif, c'était tu peins un start collecting. Fait que ça veut dire que tu viens pas avec ton armée pas peinte. Tu viens avec une armée peinte. Ta peinte, ton armée, es-tu dans un start collecting? Ouais, cool, tu peux fitter. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire rendu là? On joue un scénario que le DM, par exemple, l'employé a déjà organisé. Donc, il joue une game, que le scénario y est déjà déterminé, y est déjà choisi, tu viens avec une armée peinte. Voilà. Il n'y a pas de list building, il n'y a pas... Par exemple, je donne un exemple. Mais si les attentes sont claires, ben, la réaction risque d'être très claire aussi.
Moi, ouais, ben, je pense que l'objectif, mais effectivement, ce que tu dis par rapport à ça, que tout le monde ait les mêmes attentes puis qui veulent faire la même chose dans cette journée-là. On a organisé certains événements où je pense qu'on a mis tous les efforts pour que ce soit ça, mais les gens avaient quand même de la confusion entre OK, ben est-ce que c'est un événement compétitif ou c'est narratif pour le plaisir? Puis je pense qu'on a déjà essayé de faire des mix entre les deux. Puis mon impression, c'est que peut-être que les gens qui voulaient quelque chose de purement compétitif n'ont pas été servis. Parce que tout le monde ne jouait pas au même niveau. Puis le niveau de sérieux, entre guillemets, était peut-être pas là. Fait que d'essayer de faire des événements mixtes là, qui amènent le côté narratif, le côté introduction au jeu, le côté compétitif ensemble. Ça peut être assez difficile, merci.
Ben parce que dans le fond, tu essayais de, comme on dit en anglais, serve multiple masters, tu essayais de servir plusieurs objectifs en même temps. T'sais. Puis tu essayais de réunir des gens avec des attentes complètement différentes à la même place. C'est sûr que ça devient plus compliqué.
Ouais, ça demande un autre niveau d'organisation. Là, quand tu n'as pas des gens qui veulent tout pousser dans la même direction, c'est sûr.
Ben. Encore une fois, je parle de l'expérience, puis j'ai pas été dans l'organisation de ces événements-là, mais j'ai l'impression que parfois, on est peut-être parti à l'envers, où on a dit, OK, on est un groupe qui joue, on veut réunir tout le monde de ce groupe-là, tout le monde, mettons-nous d'accord sur un événement, ce qui fait que tout le monde arrive avec son bout, puis qu'il y a une espèce d'arbitrage entre quel est l'événement, qu'il n'y a pas une mission définie, puis après ça, les gens décident s'ils veulent venir ou non, mais l'objectif, dans le fond, devient de réunir tout le monde. Puis ça se fait seulement par des compromis. Fait que tu peux pas avoir un événement aussi accrocheur, aussi dynamique.
Là. Ben, c'est peut-être comme Kevin disait, ce qui n'a pas été assez défini au début, l'objectif. Ça aurait peut-être, à place d'essayer de faire que c'est soit un événement compétitif ou pas, c'était peut-être juste de dire hey, on va essayer de faire un événement compromis pour tout jouer ensemble.
Mm-hmm. Ouais, parce qu'au bout de la ligne, si tu as réuni tous tes amis, ou slash peu importe ton groupe, là, tu réunis tout ton groupe, puis ton objectif de départ, c'était ben, on veut tout le monde autour des tables en train de jouer. tu l'as atteint ton objectif. Tout le monde est venu jouer. Bravo. Mais si ton objectif réel, c'était pas de réunir tout le monde, mais c'était de t'assurer que tout le monde y trouve son plaisir, ben là, t'as passé à côté du bateau solide, mais parce que t'as mal déterminé c'était quoi l'objectif. Là, j'ai peut-être l'air super critique quand je dis ça, là, mais c'est parce que c'est pas contre personne, au contraire, là, le nombre d'événements que j'ai runnés qui n'ont pas marché. Mais c'est un examen de conscience à se faire à chaque fois que tu fais une activité. Que ce soit une activité que je fais en tant qu'éducateur dans une école ou que ce soit dans le wargame, c'est la même chose. Ça va tout nous arriver de déterminer un objectif qui, malheureusement, n'était peut-être pas celui qu'on aurait dû établir au départ. Puis après ça, c'est comment tu corriges ça. Puis je pense qu'une des choses qu'on a réussi à déterminer assez rapidement, c'est de mettre des barèmes très claires quand on fait nos événements, quand on fait nos affaires, c'est cette game-là, ça va être ça. Viens-t'en avec ça. C'est un événement narratif ou c'est un tournoi? Encore une fois, je pourrais me présenter dans un tournoi, puis ça serait un événement. Les gens qui vont là ont un objectif clair, c'est d'aller jouer dans un tournoi, donc ils vont jouer plusieurs games. Ils vont avoir du fun parce qu'ils vont avoir un classement compétitif. Le lore de ton armée, c'est secondaire à qu'est-ce que tu viens faire ici. Tu viens jouer une game avec un classement, avec des points. Donc, tout le monde y trouve son compte parce que l'attente est claire, parce que l'objectif est clair. Moi, j'atteindrai mon objectif parce que j'aurai un deadline.
Ouais, c'est ça.
Rendu là, en train de le jouer, peut-être que j'aurais moins de plaisir parce que c'est clairement pas quelque chose que moi, j'aime. Mais j'aurais atteint mon objectif de deadline de peinture. Puis, on peut être surpris au nombre de personnes qu'ils vont s'inscrire dans un tournoi parce que c'est un deadline pour eux. C'est une raison de passer à travers la pile de modèles à assembler puis à peindre puis de dire il faut que j'aille finir 2000 points pour dans 3 mois parce que j'ai le LVO qui s'en vient. Puis qu'est-ce que je fais durant mon 3 mois que j'assemble et que je peins mon armée? Ben je joue des games pour préparer ma liste pour mon tournoi. Fait que le deadline feed mon hobby durant 3-4 mois. T'sais. Nous, on le fait à travers nos campagnes compétitives.
Dans le fond, si je peux rajouter là-dessus...
Je me suis trompé entre campagne compétitive et campagne narrative. C'était comme un beau mix. Campagne narrative. Vas-y.
Non, j'allais juste dire que, un peu comme qu'on a encore abordé à l'autre épisode, c'est tout est une question d'avoir la discussion avant sur c'est quoi que toi tu veux retirer d'un événement, mais l'autre personne en même temps aussi, c'est s'assurer qu'on atteint l'objectif. T'sais, ça va ensemble. Pour atteindre ton objectif, il faut que tu ailles des gens qui veulent aussi pousser dans la même direction.
Par rapport justement à définir bien les objectifs, tout ça, dans le chapitre de Wargaming Compendium que je vous ai passé, à un moment, il dit que c'est différent de faire un événement, par exemple, dans le cadre d'une convention avec plein de gens que tu ne connais pas, fait dans un magasin ou etc., puis celui avec tes amis parce que tu connais plus tes amis, ce qui n'est pas faux, mais je pense que malgré tout, puis l'expérience que j'ai dans le groupe, c'est tu peux connaître tes amis, tu peux avoir eu des discussions avec eux, mais des fois, tu te rends compte au fil, justement, pour aller dans le même sens que toi, Philippe, au fil de la discussion, tu te rends compte que, oups, vous utilisez le même mot pour qualifier ce que vous voulez, mais il ne veut pas dire la même chose pour les deux.
Ah, ben oui. Parce que
quand tu définis ton événement, quand tu prends le temps de définir ton objectif, ça vaut la peine d'en parler aussi avec tes amis une fois l'avoir statué pour qu'ils comprennent bien que, oui, vous utilisez les mêmes mots, mais peut-être que vous ne voulez pas la même affaire, ou tu sais, peut-être à ce moment-là, vous allez vous en rendre compte, puis c'est important. Puis après, et l'autre truc que je trouve important, c'est que quand tu fais partie de l'auditoire, c'est-à-dire le groupe qui reçoit le projet de l'autre personne, c'est que ben, la personne, elle, apprend du temps, des efforts pour faire quelque chose, puis ça se peut que ça ne te corresponde pas, puis c'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi respecter que cette personne-là met du temps puis des efforts pour créer quelque chose, puis ça se peut que ce soit pas ça qu'on veut.
Pour rebondir sur l'article que Dave parlait, c'est ça, j'aimais aussi le point qu'il disait, c'est ce qu'on a tendance aussi souvent à pas faire parce que on veut participer, mais que ça prend, qu'on appelle ça un DM, un Game Master, un arbitrateur, un arbitre, un chef, un peu importe, ça prend quelqu'un qui va animer la partie pour justement, l'événement, pas nécessairement la partie, pour justement que les personnes qui sont laissées pour compte, ben tu sais que tout le monde qui s'est déplacé en retire quand même quelque chose. Fait qu'il y avait un bout là-dessus puis qui insistait aussi justement que c'était encore plus compliqué quand c'est des gens que tu connais pas. T'sais. Ils se sont déplacés pour ton événement. Fait que tu as quand même une certaine responsabilité de d'ajuster puis d'être là 100% de ton attention pour gérer l'événement versus ce qu'on a souvent tendance à vouloir y participer en même temps qu'on le gère, entre guillemets.
Ouais.
Mais je suis d'accord, mais le contrepoint de ça, je dirais, par contre, c'est que ça peut être plus difficile de dire non ou de faire respecter des règles quand c'est dans des zones grises entre amis. Puis,
oui.
Je prends un exemple flou, là, que je me rappelle même plus c'était qui, fait que je pense que c'est correct, mais tu sais, de OK, c'est un événement, on va prendre le classique, c'est un événement, tout le monde faut qu'il joue peinturé. Il y a quelqu'un qui a mis plein d'efforts, puis il y a quelqu'un qui arrive, ses figurines sont peinturées, mais juste trois couleurs, ou tu sais, c'est pas à un niveau sympathique. Mais donc, en tout cas, le contrepoint est que dans les zones grises, faire respecter les règles pour des amis, c'est plus difficile. Au niveau de la peinture, tu sais, quelqu'un qui n'a pas peinturé les bases ou qui n'a pas peinturé à un niveau que les autres ont mis d'efforts, quand c'est un ami, c'est dur de dire ben non, tu n'as pas respecté les règles, tu ne joues pas. C'est tough.
Mais c'est sûr, c'est plus facile de faire respecter un gentleman agreement, parce que c'est ça un peu quand tu te vois à un événement comme ça.
Ben oui.
Quand c'est des gens que tu connais versus quand c'est des gens que tu ne connais pas. Parce qu'il y a moins d'impact si c'est quelqu'un que tu ne connais pas à long terme que si c'est ton cercle d'amis. Tu sais.
Mm-hmm. Ben oui, parce que les égos qui vont être blessés n'ont pas de conséquences à long terme. Si tu vas jouer au LVO, pogne avec un dude qui s'appelle Jack, demain tu ne le verras plus, Jack. C'est fini. On s'entorche. C'est pas grave. Mais si c'est ton ami. Je sais pas, moi, Benoît, Phil, je sais pas, tu sais, je nomme les noms de notre groupe, là, mais quelqu'un avec qui de notre groupe, ce que tu te pognes, ben, ça va être des fois un peu awkward la prochaine fois que vous allez jouer une game ensemble. Fait que c'est important de faire attention aux égos des autres, mais à la limite, ça serait le même règlement pour tout le monde. C'est juste, c'est nous qui, par sensibilité, on a tendance à dire, ouais, il y a des conséquences un peu plus à long terme, c'est mon ami, ça fait des années que je le connais, je vais faire attention, tu sais. Mais au bout de la ligne, ça reste que le gentleman's agreement du tournoi que personne ne se connaît ou presque, le gentleman's agreement de toi avec tes amis, ça devrait être traité avec le même sérieux. Parce que c'est une question de respect au bout de la ligne.
Oui, c'est ça, parce que tu as la personne qui va avoir fait un effort. Que si l'autre arrive et dit ben moi, je ne l'ai pas fait, tough là que je joue comme ça, ben la personne qui est punie, si tu n'agis pas, c'est la personne qui, elle, a mis un effort jusqu'à la dernière minute.
Ben oui.
Puis des fois, elle l'a fait parce que c'était. Parce que l'événement, c'est ça, mais pas nécessairement parce qu'elle avait envie de le faire, mais elle s'est dit, si je participe à ça, je respecte le gentleman's agreement. Je pense que c'est dommage de punir cette personne-là plutôt que la personne qui dit, je suis au courant, je sais que c'est ça, mais je le fais pas.
Ben oui.
C'est clair.
Mais dans un magasin, là, c'est un autre point de vue que j'apporte, là, mais quand tu rentres dans un magasin, un événement comme ça, le gentleman's agreement, là, que toi avec tes amis, là, tu fais quelque chose, puis là, tu te pognes avec un de tes chums, c'est malaisant durant une couple de jours, une couple de semaines, ou à la limite, vous ne parlez plus, whatever. La conséquence est émotive, mais à un certain point, elle est predictable, elle est comme prévisible. Tu es capable de pouvoir savoir, ben, oui, effectivement, on risque de se pogner, le règlement est clair. Quand tu runs un magasin, ou un LVO, ou whatever, là, mais mettons, je vais prendre un magasin parce que c'est ce que moi, j'en connais. Quand tu rentres un magasin et tu fais un événement comme ça, puis là, il faut que tu te confrontes à « mais tu n'as pas respecté le règlement, fait que je vais te demander, s'il te plaît, de prendre tes choses puis de quitter, de ne pas participer à cet événement-là. Tu peux rester pour regarder à la limite, mais il y a un deuxième degré à ça qui est « c'est peut-être un client. C'est quelqu'un qui met de l'argent dans ta business. C'est quelqu'un qui vient fréquenter ton établissement régulièrement. C'est quelqu'un qui, oui, a manqué de respect envers ton règlement. » Mais qui va peut-être rester autour pour pouvoir garder les gains, va peut-être avoir des conséquences par rapport à ce qu'il va apporter la semaine d'après quand il va venir acheter sa peinture. Comment ça va être awkward entre toi qui a appliqué les règlements et lui qui revient, tu sais. Il y a des conséquences économiques à appliquer ce genre de règlement-là. Fait qu'il faut que ça soit fait avec, là où est-ce qu'avec un ami, il faut que tu l'appliques avec un petit peu de tact parce que tu veux pas blesser un ego d'un ami proche. C'est un peu la même chose avec un client qui vient chez vous, qui a acheté un service puis qui vient bénéficier de ton environnement. C'est un peu la même chose. Il faut que tu fasses un peu attention. Tu ne peux pas te permettre d'être juste blanc-noir dans ton application du règlement. Il y a une façon de l'aborder aussi qu'il faut faire attention pour pouvoir garder une relation professionnelle avec ton client.
C'est clair. Moi, puis ça sera peut-être le point final à ça, là, mais moi, je trouve qu'on a été beaucoup trop sérieux et trop professionnel dans notre point. Ça reste quand même des événements qu'on organise pour le fun, pour le plaisir, puis t'sais, on a sorti des exemples de conflits ou des trucs qui ne fonctionnent pas, mais comme au final, on a du plaisir, puis le but, c'est d'avoir du plaisir. Là. Je trouve qu'on intellectualise un peu trop l'affaire. Là. Genre, s'il y a des gens qui nous écoutent qui font comme « Oh mon Dieu, hey, c'est de la job planifier un événement de gaming. » Non, non, faites-le, vous allez avoir du plaisir, puis quand ça va en faire 4-5 que vous allez avoir fait, ben, vous aurez peut-être les mêmes réflexions que nous, mais vous allez avoir passé à travers des bons moments aussi. Là.
Vas-y, Phil.
C'est quand même mieux faire un event que pas faire d'event. Il faut commencer quelque part. C'est la base.
Oui, puis à la limite, j'apporterai justement pour pouvoir apporter un autre côté à cette médaille-là qui peut être une certaine légèreté. Là, mais là, on a parlé beaucoup de la personne qui organise. On a parlé beaucoup de l'organisation. Fait que moi, on l'a traité avec beaucoup de sérieux parce que la personne qui organise, c'est elle qui chapeaute tout le projet au complet. T'sais? Fait qu'elle a une certaine responsabilité. Fait que ça peut sonner lourd. Mais la personne qui vient participer, là, elle est là pour avoir du fun. Fait que le meilleur conseil que moi, je donnerais à quelqu'un qui va participer à un événement, là, vas-y pour avoir du fun, pour vrai. Vas-y, là, pour vrai, là, viens avec l'esprit ouvert. Viens découvrir c'est quoi. C'est pas ton event. T'as mis des efforts dans tes choses. Sois fier de ce que t'as fait. Viens jouer, viens triper. Viens montrer tes affaires. Viens jaser avec du monde. Ça va te coûter beaucoup d'énergie sociale, là. Mais vas-y avec un esprit ouvert, puis viens comme vraiment profiter du moment présent de cet événement-là. Parce que c'est en faisant ça que cet événement-là va pouvoir vivre puis être plaisant pour la personne qui l'organise. C'est ça.
C'est beau, ça.
C'était beau, ça?
Ouais. Ouais.
Je vais commencer avec toi, Max.
Oui.
Parce que dans qu'est-ce qui te fait triper dernièrement, là, ce qui te passionne, là, ce qui te drive, là, c'est quoi?
Ben, le dernier achat que j'ai fait, franchement, ça m'intriguait, puis je l'ai acheté récemment en attendant un autre produit de ces gens-là. C'est, dans le fond, de Firelock Game. On a parlé au premier épisode de Blood and Plunder, qui est leur jeu de pirates. Mm-hmm. Et ils ont sorti récemment. Moi, je l'ai acheté en PDF parce qu'ils ont eu des problèmes d'impression. Là. Ils sont encore en pre-order pour le livre physique. Mais donc, c'est une nouvelle expansion qui s'appelle Blood and Plunder, Fire on the Frontier. Et comme on disait, donc, c'est un jeu de pirates. Donc, ça se passe principalement au niveau des Caraïbes. Mais ils ont rajouté cette partie-là qui vient chercher les guerres, le King's Philip War de 1675 à 1678, le King William's War de 1688 à 1697, qui vient chercher donc des conflits entre les Premières Nations, les Autochtones du nord-est de l'Amérique, l'Angleterre et les Français. Donc c'est une avancée dans l'histoire, donc c'est vraiment intéressant. Puis le livre est vraiment bien fait, franchement. Tous leurs produits ont vraiment un côté historique intéressant. Moi, j'ai pas le background de David au niveau du jeu historique, fait que je trouve ça bien intéressant. Sur un 84 pages, il y en a une bonne vingtaine là, qui nous donne l'histoire de ces différentes guerres-là, et spécifiquement là, des différents combats, des personnages là, important et tout ça. Fait que c'est, un, intéressant pour l'histoire. Puis ensuite, ça nous donne toutes les différentes unités et les différentes personnalités qui sont battues dans ces guerres-là. C'est bien intéressant. Moi, j'avais déjà, dans un de leurs suppléments, il y avait la possibilité de faire des pirates canadiens-français. Oui, il y a sûrement des pirates canadiens-français qui sont descendus jusque dans les Caraïbes. Mais là, de pouvoir les faire se battre à la maison avec l'avantage d'être home, ça peut être bien intéressant. Puis il y a une bonne partie aussi de leur livre, quelque chose qui est qui étaient moins présents dans leur dans le jeu de base, parce que c'est un jeu qui est amphibie, dans le fond, c'est possible de jouer avec les bateaux. C'est vraiment axé sur le combat naval et amphibie, donc naval et sur terre, des attaques de port, des choses comme ça. Mais si on parle de la Nouvelle-France, ben, on a plus de fortifications. Donc, il y a toute une partie sur les fortifications de la Nouvelle-France puis des colonies anglaises à cette époque-là. Fait que ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant au jeu.
Ça vaut la peine de noter que Firelord Games emploie un historien consultant pour développer leur jeu. Puis que souvent, il expliquait ça dans une vidéo, les règles spéciales qu'ils donnent aux unités, c'est basé sur des récits historiques de ces unités-là, comment ils se sont comportés dans une bataille. C'est vraiment intéressant.
Ouais, ben, j'ai les crédits devant moi du livre, puis effectivement, là, il y a cinq consultants et références historiques. Bon, ça inclut les gens de la compagnie, là, Mike et Joseph, là, qui, si je comprends bien, sont les gens qui ont fait le jeu à l'origine. Mais ouais, ils ont vraiment ils mettent cet effort-là d'avoir quelque chose de vraiment intéressant historiquement. Puis donc ça, c'est tout ça pour dire que j'ai acheté ça pour me faire attendre leur Kickstarter qui commence à prendre un peu de retard, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé. Dans les dernières années, les derniers mois, il y a des retards de livraison de leurs producteurs. Mais si ça vous tente d'aller voir Raise the Black, qui est le Kickstarter pour la prochaine avancée de ce jeu-là, encore une fois, là, dans l'histoire, et avec des nouvelles unités, des nouvelles règles, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert.
Il y a même Barbe Noire et Anne Bonny dans Raise the Black.
OK. Bon, on va peut-être devoir se faire un épisode sur les pirates, là. Une espèce de cours d'histoire où est-ce que vous allez pouvoir nous parler de c'est quoi les pirates, c'est quoi les livres de campagne. Je pense que ça vaudrait la peine de pouvoir en explorer un petit peu plus, parce que toutes les deux, vous avez clairement l'air d'avoir comme beaucoup de connaissances sur la chose, puis il y aurait peut-être des auditeurs qui seraient intéressés à essayer le jeu de Blood and Plunder, qui devraient en apprendre un petit peu plus que juste 5-10 minutes qu'on a de conversation là-dessus, là. Fait que peut-être nous le partager en commentaire dans un épisode si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus, ou même si vous le jouez puis vous seriez juste plus intéressé à avoir du contenu, je pense que ça vaudrait la peine. Phil, vas-y, sauve-moi. Tu vas pas essayer de m'éduquer, toi.
Non, je penserais pas. Moi, je suis plus comme toi, je suis dans le moment présent puis la gratification instantanée. Moi, je suis vraiment juste trop excité encore par l'Horus Hérésy qui s'en vient bientôt. Je me demande vraiment s'il va y avoir des campagnes. Fait que je recommençais à lire des trucs de lore de Forge World. Je cherche des trucs pour faire de la sculpture de fourrure pour Bayluna Wolf parce qu'il va falloir des nouveaux héros. Ouais, fait que je suis en train de pré-tomber dans le rabbit hole de l'Horus Hérésy. Pour aller un peu avec ça... on avait regardé le nouveau système de campagne là, qui avait été mis dans Vigilus Alone pour contrôler là, des zones et faire des campagnes narratives. Puis ça l'a amené l'idée là, de... J'ai commencé à regarder pour voir comment transférer ça dans Age of Sigmar, vu que justement, on risque pour 40K d'être dans l'Horus Hérésy et Plague War. Donc, c'est un truc qui m'intéressait. Fait que en ce moment, je regarde beaucoup là, pour regarder les règles, les différents trucs pour faire une campagne similaire, mais dans un monde fantastique. Puis j'ai découvert aussi Incarnate. En tout cas, googlez-le.
Ça
sonne comme ça. On le mettra en commentaire.
Ça prend un cas, ouais.
C'est ça. C'est un logiciel pour web pour faire des maps. Fait que... Un autre rabbit hole que je suis tombé dedans pour. C'est infini comme logiciel pour être capable de faire une map de potentielle campagne. Donc, tu peux faire toute la. Si tu veux la topographie, le monde, les océans, tu peux rajouter des villes, c'est fou.
C'est comme un outil de DM, dans le fond. Tu sais, comme back in the day à Donjon Dragon, quand tu faisais ta map, tu prenais ton crayon à mine, tes crayons de couleur, puis tu faisais une map en dessin. Là, toi, c'est que tu le fais sur l'ordinateur. De façon beaucoup plus réaliste et précise.
Ouais, à la place de peindre ou d'assembler des modèles.
Mais ouais. Ça fait un break.
Non, mais c'est vraiment cool. Puis c'est ça, ça me motive, ça me donne des idées pour ce qu'on pourrait faire avec ça après. Fait que, ouais, ça tourne autour de ça, de ce temps-ci, là, les campagnes.
Bon, ben, en parlant de campagne, on va passer au Godville. David?
Oh! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des nouveaux cavaliers normands chez Victrix. Alors, Victrix, c'est une compagnie, comme beaucoup de compagnies de figurines britanniques, qui ne font que de l'historique. Ce que j'ai vu d'eux, c'est de l'historique. Et donc, ils viennent sortir un nouveau kit de cavaliers normands qui contient 12 cavaliers. C'est de l'échelle 28 mm. Avec, tu peux faire des chevaliers normands, des chevaliers bretons, des chevaliers des premières croisades. Tu peux aussi faire des chevaliers de l'époque du Cid en Espagne. Donc, tu peux faire les chevaliers islamiques, les chevaliers andalous. Et c'est pas dans leur description, mais dans les premières images qui montraient du développement du kit, tu peux aussi faire des Italo-Normands, donc les Normands qui ont envahi le sud de la péninsule italienne. Et c'est un kit qui a beaucoup, beaucoup de possibilités. J'avais déjà, quand je faisais mes recherches pour faire des Vikings, j'étais tombé sur un site qui les décrivait comme le gold standard pour les Dark Ages, donc pour le médiéval
historique.
La période médiévale, ouais. fait que c'est vraiment des beaux modèles. Moi, j'adore ce qu'ils font. On pourra vous mettre des photos de ce kit-là sur le groupe. Pour les gens dans le balado avec moi en ce moment, je vous ai mis dans notre groupe général si vous voulez voir les photos du kit monté, peinturé, qu'est-ce que ça donne. Je dirais que le seul bémol que j'ai avec Victrix, c'est que leur instruction, là, vous allez la voir, elle est là. C'est pas un dessin. C'est vraiment la pièce A8 va avec la pièce A9. Si t'es pas quelqu'un si t'es quelqu'un de très visuel, ça peut être difficile. Si t'es pas quelqu'un qui fait attention, tu peux des fois te retrouver avec des gars qui ont des drôles de positions parce qu'ils sont très dynamiques. Mais si tu fais pas le bon bras avec le bon corps, ça peut avoir l'air bizarre.
Je confirme.
Oui.
J'allais justement dire pour Kevin, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que c'est des kits extraordinaires. Je vais vous le dire franchement. Il fallait comparer quelque chose de Games Workshop. Ce que Victrix fait, et en termes de détails, est bien au-delà de ce que certains des kits de Lord of the Rings est. Fait que les kits du Rohan, les kits de Minas Tirith, par exemple, pour les fans de Lord of the Rings, qui sont des beaux kits pour Lord of the Rings, sont pas au niveau Victrix. Victrix a clairement fait une superbe job sur leur modèle. Sont vraiment cool, sont vraiment beaux, mais pour l'assemblage, c'est un peu de la merde si tu t'es habitué à avoir des images pour te dire quoi mettre où. C'est des chiffres et des lettres. C'est un peu dry, fait que je te conseille de pas prendre trop de boissons pendant que tu gères ça. Puis c'est ça, mais c'est vraiment cool. Honnêtement, n'importe qui tripe sur l'historique, là, sautez là-dessus. C'est des beaux kits, ça vaut la peine. Fais des commandes de groupe. Moi puis David, souvent, on se commande ensemble des. On se fait des commandes à deux là, parce qu'on sauve sur le shipping.
Oui.
Ça vaut vraiment la peine, là, justement. Maintenant que David il a partagé les photos, ça me rappelle qu'il faudrait qu'on fasse une commande.
Et voilà. Puis un autre truc super le fun, c'est qu'il y a un partenariat avec Little Big Man Studio qui font des décalques. Et ils font des décalques de boucliers. Si tu es un fan de Freehand, tu ne vas peut-être pas vouloir les utiliser, mais les décalques sont superbes. Ils ont intégré dans l'image une forme de weathering. Là, donc, ils ont l'air un peu sales, ils ont l'air un peu d'être marqués par des coups, là, mais les décalques sont superbes. Donc, quand tu commandes chez Victrix, tu peux commander ton unité puis toutes les planches de décalques que tu veux à côté. Puis il y en a, encore une fois, pour fitter les factions que tu peux faire avec. Donc, il y a les Normands, il y a les Croisades, il y a... l'époque du Cid, puis il y a même les boucliers spéciaux pour les chevaliers islamiques. Et ouais, les décalques sont superbes. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on est habitué comme type de décalque. Ça se pose à l'envers, mais quand j'ai découvert ça, là, j'ai adoré, puis ça donne un effet de feu.
Je suis d'accord. Ben moi, question de vous amener vers le moins d'éducation possible. Moi, je reste dans le thème historique. Je reste quand même dans le thème un petit peu historique. Moi, ils ont sorti la dernière saison de Last Kingdom. Fait que je suis resté accroché sur Netflix sur Last Kingdom pendant que j'assemblais de l'Horus Hérésie. C'est ça mon multitasking. Puis, ben, à force d'écouter puis de regarder du Last Kingdom, ben, j'ai recommencé à écouter les audiobooks de Last Kingdom. Et ça m'a donné envie de faire plus de historique de saga. Et j'ai ressorti tous mes modèles de saxons que j'avais. J'en avais déjà peint quand même pas mal, là, mais j'en avais énormément plus à assembler et à peindre. Donc, j'ai ressorti ça là, pour prendre un petit break une fois de temps en temps entre Ultramarine puis mes autres projets. Donc, peut-être qu'on va se faire une game de saga, moi puis David, à un moment donné, bientôt. Là. On va voir. Oui. Je pense que ça nous ferait du bien. Puis pour faire un beau petit segue vers autre chose, ben moi, je suis un petit peu comme pour Phil, je suis tombé dans un rabbit hole qui s'appelle Warcry. Donc, Warcry est un jeu de skirmish ou escarmouche, si je me fie au vocabulaire de David.
Merci.
Ça fait plaisir. Donc Warcry, jeu de skirmish vraiment cool que j'ai joué à quelques reprises, que j'ai bien aimé. Qui est complètement différent de ce que Games Workshop fait avec Age of Sigmar et autres. Et ce qui m'a un petit peu amené à vouloir en parler aujourd'hui, c'est qu'on parlait tantôt de Underworld avec Max. Ben, dans le dernier Tomb of Champions de Warcry, ils ont sorti les règles pour pouvoir jouer les Warbands d'Underworld as is de la boîte dans Warcry.
Donc, oh, wow!
Ouais, fait que ça, c'est vraiment très cool parce que pour quelqu'un comme moi qui aimait ça acheter les boîtes de Underworld, mais je ne joue pas à Underworld, fait que je passe mon temps à donner les cartes à tout le monde. Ben, j'ai des boîtes Warband vraiment cool que je mets dans mes units d'Age of Sigmar. Là, je peux jouer à Warcry avec mes Underworld gang. Puis comme qu'il y a des allégeances qui fêtent ensemble, je vais donner un exemple. Les squelettes, les Sepulchral Guard, et les Crimson Court, je pense qu'ils s'appellent, qui c'est les vampires.
Ouais.
C'est comme deux Warband d'Underworld. Ben, ils font partie d'une seule allégeance qui est les Soulblight, Gravelord. Fait que quand tu joues à Warcry, tu peux prendre un amalgame de ces deux Warbands-là pour pouvoir te faire ta Warband de Warcry.
Oh!
Fait que ça, c'est super cool. Pour moi, ça a comme... C'est peut-être parce qu'on joue énormément de games dernièrement qui sont comme des grosses games. On joue beaucoup de games de 40K qui sont grosses. Ça m'a comme donné envie d'aller explorer quelque chose d'un petit peu plus petit. Puis en parlant avec Phil puis ses idées avec Incarnate puis avec des campagnes de Age of Sigmar et tout en jasant, ben, je me suis mis à sortir sortir mes livres de Warcry. Puis comme j'ai un projet Slave to Darkness qui s'en vient tout de suite après Mars for McCrag pour avril Slave to Darkness, j'ai pas encore trouvé de cool name pour ça. Mais le mois d'avril va être Slave to Darkness. Mais je trouvais que c'était comme un beau mix. Comme ça, je vais pouvoir peindre le God Sworn Hunt, qui est la Warband que Max peint en ce moment. Ben, je veux me l'acheter pour pouvoir la peindre, pour pouvoir la mettre dans mon armée de Slave to Darkness. J'ai déjà la Warband d'Underworld de Slave to Darkness, les Chaos Warrior. Je me rappelle pas le nom de la Warband, par exemple. Mais,
Khagra's Ravager?
Ouais, Khagra's Ravager. Fait que eux, je les ai aussi. Fait que pour moi, il y a comme un beau mix qui me permet de pouvoir tout mettre ensemble puis faire mixer plein de projets. Puis c'est ça que ça devient dangereux pour moi. Si je commence à pouvoir mixer plein de projets dans une seule affaire, ça veut dire que c'est clairement ça que je vais être pogné dessus durant un petit bout de temps. Mon mois d'avril va être probablement occupé avec du Slave to Darkness, Warcry, Age of Sigmar. Ça va ressembler à ça.
Ça va être Esclave d'avril.
Oh. Esclave de... Oh! Slave to April? Je sais pas, ça sonne Tortue Ninja.
Qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour.
Ouais.
Fait que c'est déjà fini. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou sur Balado Québec. Partagez le balado. Parlez-en à vos amis. Vous pouvez nous trouver sur Facebook la page Soirée Peinture Le Balado. Je répète, Soirée Peinture-Le Balado. N'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires. Partagez-nous les affaires. Il y a eu quelques reprises en soir où est-ce qu'on vous a dit de nous partager des choses en commentaire, de nous partager qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez entendre sur la page. Donc, partagez ça avec nous. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Parlez-nous de vos projets. Bonne soirée, tout le monde. ils viennent nous éduquer pareil.
Ouais. Mais ça, c'était pertinent, ça faisait pas mal.
Je sais pas pour toi, moi j'ai mal.
Allez,
patate poil maudit, viens. Dans une seconde, hein? Je me suis comme perdu dans mon téléphone.
Excellent. It's a wrap.
It's a wrap au poulet.